à tous. Pour commencer ce culte, nous allons prendre le premier chant, intitulé « De concert avec les anges ». C'est le numéro 146 dans « À toi la gloire ». Et il est publié dans les commentaires de Noémie sur Facebook. Ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu permets que nous soyons tous assemblés en communion ce matin pour te mettre à la première place, te louer, t'adorer, examiner ta parole. Tout cela nous tient très à cœur, Seigneur, ce matin. Je remets ce culte, Seigneur, pour qu'il soit vraiment à ta gloire. Amen.
Amen. Mm-hmm.
Donc aujourd'hui c'est l'Ascension nous allons commencer dans les Actes. Actes au chapitre 1, c'est un des deux récits de l'Ascension. Juste pendant le temps que vous cherchez, on vient de chanter au dernier refrain, dernier couplet, « Soyons pleins de vigilance dans l'approche du grand jour ». Et ça va un peu guider notre réflexion aujourd'hui. Donc les Actes des Apôtres, chapitre 1, ça commence ainsi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est Luc qui a écrit l'Évangile, et donc ici c'est le second livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voilà. Et donc Luc reprend là. Il avait terminé à cet endroit-là, le moment où il a été enlevé au ciel, et il reprend, il le détaille un peu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà. Donc 40 jours après Pâques, si vous comptez, ça fait le jour de l'Ascension. C'est comme ça qu'on sait que c'est aujourd'hui. Je poursuis au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » ces 40 jours, l'ascension est au milieu de Pâques et la Pentecôte. Hein, 10 jours après, c'est la Pentecôte. Dans 10 jours, dimanche prochain, nous fêterons ça. Peu de jours, ben oui, c'était 10 jours à attendre. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Voilà, donc cette question était déjà présente et Jésus va leur montrer qu'elle n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Il répond au verset 7, hein, il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc ceci est un peu la table des matières des Actes des Apôtres, puisqu'on voit, il y a différentes étapes qui sont différentes étapes dans les Actes qui sont celles-là. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc une nuée, dans les, il est élevé, et puis il disparaît dans le nuage. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Voilà. Et donc ce départ est déjà lié à son retour. Et c'est pour ça que nous avons chanté « Soyons pleins de vigilance dans l'approche du grand jour ». Nous attendons ce retour. Voilà, nous devons être vigilants pour le coronavirus, mais nous devons être encore plus vigilants pour le retour du Seigneur. Et nos chers apôtres ici, ont comme consigne d'attendre ce retour, mais de ne pas l'attendre en regardant au ciel. Ils retournent chez eux. C'est ce qui se passe au verset 12. Hein. « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. » Et ils vont se conformer aux instructions de Jésus, d'attendre le Saint-Esprit, et après d'aller... d'être les témoins pour Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous allons prendre le chant suivant, intitulé « Dieu lui-même au mystère ». C'est le 55 dans « À toi la gloire ». Et donc... Dans les paroles, hein, c'est surtout le couplet 4. « Rentré dans la lumière, il est à la droite du Père, il conserve envers nous la même charité. » et évidemment, l'annonce du verset 5, « Il revient sur la nuit, attendons sa venue. Bientôt, il régnera dans la sainte cité. »
Mystère descendant sur la terre.
que les apôtres avaient été quittés par Jésus physiquement quand ils étaient sur le mont des Oliviers, et que deux anges leur disaient, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et cela se voit dans le livre de Zacharie, donc c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, au chapitre 14, verset 4. Et donc c'est une prophétie qui parle de Jésus. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi, vers le sud. Voilà. Et donc nous voyons que c'est bien là que ses pieds se poseront. C'est là qu'ils ont foulé la dernière fois la terre, et il reviendra en ce même endroit, comme les anges ont dit, de la même manière. Donc c'est une prophétie toute particulièrement pour Israël. Voilà. Les apôtres étaient juifs. Nous avons vu qu'ils attendaient le moment où Jésus établirait le royaume. Voilà, ils avaient reçu des prophéties dans l'Ancien Testament par rapport à ça. Voilà. Et en même temps d'être juif, l'Église était déjà annoncée et ils allaient être les fondateurs de cette Église. Et donc ils ont reçu des messages sur ces deux aspects. Mais pour nous, chrétiens, nous avons une espérance qui devrait arriver avant, se concrétiser avant. C'est dans la première lettre aux Thessaloniciens qu'elle est notamment évoquée. Au chapitre 4, versets 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est quelque chose que Jésus a dit lui-même. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, nous avons cette espérance pour l'instant. Et donc nous voyons ici que le Seigneur ne dépose pas ses pieds. Hein. Nous voyons que nous allons à sa rencontre dans les airs. Nous devons nous consoler par ces paroles. Ce sont des paroles d'espérance. Il y en a qui poursuivent dans le respect des consignes du Covid-19, avec l'espérance d'un jour être dans un déconfinement total, avoir vaincu cette maladie. Mais le chrétien, lui, poursuit dans cette espérance, une espérance peut-être plus court terme, peut-être plus long terme, on ne sait pas, mais cette espérance du retour du Christ. Voilà, et donc l'ascension, c'est pas juste se rappeler que Jésus un jour nous a quittés physiquement, mais c'est aussi se rappeler qu'il reviendra. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous prenons la Sainte Cène. Il est dit, nous le faisons dans la lettre aux Corinthiens, il est dit jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous montrons ainsi notre espérance. Nous allons prendre deux chants. Le premier, Dans sa gloire, notre maître. Et en fait, je vais vous lire un petit peu l'histoire de son compositeur, William Cushing. Donc, il est né en 1823 et mort en 1902. Il a été longtemps un prédicateur très apprécié. Suite au décès de son épouse en 1870, donc... lui-même avait 53 ans. Il doit arrêter son ministère. Plusieurs attaques de paralysie affaiblissent sa santé. C'est dans cette période difficile que William prie à son Dieu. Avec une parole, « Seigneur, donne-moi quelque chose de toi. » La réponse de Dieu fut un don pour écrire des poèmes et des chants. C'est ainsi qu'est né le cantique « Dans sa gloire ». Voilà. Donc il était en anglais et ici, les paroles en français sont de Ruben Sayens, mais voilà l'histoire donc de quelqu'un qui a su attendre, et dans cette attente il voulait quelque chose du Seigneur. Donc nous avons cette promesse du Seigneur, il reviendra. Le dernier chant, c'est le 384 dans À toi la gloire. L'horizon se colore. Oui, c'est pas le tout d'attendre. Ce que nous attendons, c'est quelque chose qui va combler nos espérances. Nous serons dans la présence du Seigneur et cela doit nous combler de joie. L'heureuse fiancée au couplet 3 attend l'époux, le roi. Donc la fiancée, c'est l'Église. Elle attend son roi, son Christ, qui reviendra la chercher pour être avec lui. Et c'est une espérance qui doit nous habiter encore plus ce matin. Seigneur mon Dieu, nous allons à présent examiner plus attentivement ta parole, plus profondément. Donne à Jean d'être guidé par l'Esprit Saint. Afin que ce qu'ils disent vienne de toi. Et je te remets les oreilles de chacun, que nous puissions entendre cette parole et la faire nôtre. Amen. Je cède ma place.
Bonjour chers amis, bonjour mes frères et mes sœurs. Nous allons parler de l'ascension. Et dans notre civilisation, vous savez que nous sommes habitués à ce que nous voyons. L'image a pris une importance formidable et nous sommes, je dirais, des voyeurs dans le sens classique. Nous sommes habités par des images et nous sommes toujours en communication avec des images. On peut regarder n'importe quel jeune sur les trottoirs, n'importe quelle personne avec le téléphone, il cherche à avoir des images, des communications, et je pense que tout ce qui est perceptible est la priorité aujourd'hui. Tout ce qui est perceptible, tout ce qui est visible, c'est rassurant évidemment. Et pourtant dans Jean chapitre 20 verset 29, nous allons voir que Jésus dit autre chose. Jean chapitre 20, verset 29. Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je voudrais vous dire qu'il faudrait s'habituer à considérer que le non-vu, l'invisible, est majoritairement présent. Il est majoritairement présent. Ce n'est pas ce qui touche nos sens qui est le plus réel. La présence divine est la plus réelle de toutes les réalités. Les éléments visibles apparaissent et disparaissent. J'en rappelle toujours, mon épouse me disait, j'ai vu un petit nuage là tout rond dans le ciel, il était magnifique, et puis tout d'un coup, deux secondes après, il n'était plus là. Ça m'était déjà arrivé aussi de voir un nuage et je le regarde et puis tout d'un coup, en une seconde ou deux, boum, plus de nuage. Ce qui apparaît disparaît. Ce qui est phénoménal, comme on dit en philosophie, peut disparaître. C'est quelque chose qui est simplement attaché à nos sens, à nos expériences sensitives. Et voilà. Il y a toutes sortes de branches dans la philosophie pour étudier tout ça, mais jamais tout ça, mais bon. Et c'est, les choses visibles apparaissent et disparaissent. Les choses visibles nous attirent et nous échappent. Souvent, elles nous comblent quelque peu, puis elles perdent tout sens premier. Si nous sommes extrêmement vulnérables, c'est parce que nous nous attachons à tout ce qui est sensible et visible et audible. Nous sommes devenus vulnérables à cause de cela. Et il faut s'habituer à l'invisible, au silence et au spirituel. C'est quelque chose, c'est un apprentissage très profond et prégnant qui est constructif. Et la véritable personnalité se construit sur l'invisible. La fragilité des hommes dans notre société occidentale est due à ce que tout est basé sur le visible, l'audible, et ce qui est palpable. Et prenons des exemples, les modèles de voitures changent continuellement, alors qu'elles sont toujours bonnes. Moi, je me rappelle, il y avait des voitures qui étaient très bonnes il y a de ça 30 ans, 40 ans, très solides. C'est dépassé, c'est déclassé, on améliore. Et si un jour il n'y a plus de pétrole, que deviennent toutes ces voitures ? Oh, vous me direz, on prendra l'électricité. Oui, si on utilise toujours l'énergie atomique, nucléaire, dans les centrales, pour venir l'électricité. Oh, il y aura toujours des vélos électriques. Oui, tant qu'il y a des centrales électriques, nucléaires. Ainsi, pour la mode, pour la coiffure, pour l'événement, tout passe. Et un professeur de philosophie que j'ai eu commençait toujours son cours. C'était un finot, mais j'adorais son cours d'anthropologie. Et il arrivait en disant, tout le monde savait qu'il allait le dire, et puis il rigolait. Tout lasse, tout casse, tout passe, sauf le bon chocolat Côte d'Or. C'était une façon déjà d'entrer dans une autre façon de voir les choses. La mode, les coiffures, les vêtements, les musiques, tout cela passe et est dépassé un jour. Un être aimé vieillit, se fane. Qu'a-t-on aimé en lui ? Qu'a-t-on aimé en elle ? Qu'aime-t-on maintenant, alors qu'il est tout ridé, tout malade, tout plié en deux, etc. Et souvent avec des difficultés importantes pour vivre. Qu'a-t-on aimé et qu'aime-t-on réellement en lui ? Le visible ou l'invisible ? Si l'âme de quelqu'un n'est pas belle, si elle n'est pas pleine de vie et d'amour, je ne vois pas où est la vraie beauté. Je ne vois pas ce qu'il y a beaucoup à regarder. Parce que si l'âme n'est pas belle, la carrosserie, l'extérieur, ne va pas durer. Donc si l'âme n'a pas combattu avec succès toutes les tentations et toutes les illusions, si elle n'a pas essuyé des revers, des camouflets, pour se guérir d'une certaine forme de vanité, si l'âme n'a pas connu la joie de progresser, de trouver des choses plus vraies et pas simplement sensibles et superficielles, l'âme n'a pas connu la joie de pardonner, de ne plus râler, si la joie n'a pas quitté ses peurs et ses idoles, si l'âme ne s'est pas laissée attirer vers le plus beau des hommes, vers Jésus, vers le plus saint, vers le prince de la paix, vers l'homme sans péché, que reste-t-il à l'âme ? Pourquoi tant de dédain pour un homme si beau et si vrai et si saint, qui n'a utilisé ni armes, ni guerre, ni or, ni argent, ni puissance, ni malédiction ? Aujourd'hui, son absence physique crée en moi une soif inextinguible, irréductible, vivante, animée. C'est cela qui m'habite. Je ne suis pas le seul sur la terre à avoir cette soif irréductible et profonde. Je porte sans cesse mes désirs vers lui, que je sois heureux ou que j'ai très mal. Lors du dernier chant que nous avons chanté, j'ai été attiré sur le chant d'à côté. Et dans ce chant, c'est un air bohémien, je ne connais pas la musique, ça doit être très beau. Ah, la nuit est sombre encore, quand donc verrons-nous l'aurore ? Fais lever le grand matin, où tous les maux prendront fin, oui, viens bientôt. Vous voyez, il m'arrive d'avoir des poids comme ça, des poids très forts sur ma conscience. Surtout quand je vois beaucoup de choses, en rencontrant beaucoup de personnes, en ayant des appels, etc. Ah, quand verrons-nous lever le grand matin, où tous les maux prendront fin? Oui, bientôt. C'est cela qui est pas forcément toujours par désespoir, par manque, mais je porte mes désirs vers lui, parce que je l'aime, parce que j'ai découvert qu'il m'aimait et qu'il aimait les hommes. Voir partir Jésus au ciel, c'est pour moi une mise en demeure. Est-ce que je l'aime pour lui ou pour moi, puisque je ne peux pas le posséder physiquement à côté de moi? Est-ce que je l'aime pour lui? Est-ce que je l'aime pour sa sainteté, pour sa gloire? Ou est-ce que je l'aimerais pour sa sécurité s'il était là, pour ma sécurité? Le voir partir, c'est donc un défi. C'est une épuration de mes désirs. C'est une décantation de mon âme. Je sais qu'il reviendra, il l'a promis, comme il avait promis sa résurrection et qu'elle l'a été effective. Il avait promis des apparitions à ses disciples, il avait promis des dialogues et des messages, même à Paul, et il le fait encore aujourd'hui pour certaines personnes dans d'autres civilisations qui n'ont pas connu la Bible, qui ne connaissent pas le message chrétien. Il revient parfois, il le promet, il l'a promis. Mais reviendra-t-il visiblement? Oui, je le pense, il l'a promis. Il nous a laissé en attendant Moïse, les prophètes, les psaumes et sa parole de l'Évangile. C'est un livre merveilleux qui est sans péché, qui est plein de grâce et plein de vérité. En fait, Jésus est loin et en même temps il est prêt lorsque je lis sa parole. Parce que c'est sa parole, c'est pas celle d'un autre. Sa parole, ses paroles sont comme des lettres d'amour, c'est une lettre d'ami. C'est une belle carte postale venue du ciel qui me montre ce qui se passe au ciel et qui se passera sur terre. C'est un SMS merveilleux, c'est un email magnifique. Plus encore, si Jésus s'est détaché de nous, si Jésus se détache de moi en allant au ciel, de nous tous il se détache, pourtant il nous aime. Il crée la distance nécessaire à ma liberté, à ma responsabilité. Vous savez très bien qu'un père ou une mère qui est possessif empêche l'enfant de se construire et provoquera des drames dans sa vie. Vous savez très bien qu'un gouvernement qui ne respecte plus ses citoyens, qui est possessif et dominateur, par la ruse ou par d'autres moyens, peu importe, ou directement par la dictature, c'est un pays qui ne finira pas bien. Il finira dans le sang. Eh bien, Dieu a voulu une distance respectable pour lui et pour nous. Sachant ma foi si petite, une foi si soumise à des combats, on les appelle les combats de la foi, il m'a promis que je ne sois pas seul. Il m'a envoyé son frère, son plus proche, l'animateur de son cœur et de ses pensées. Il m'a envoyé son véritable. Il m'a promis, il m'a donné son Saint-Esprit. Et il l'a promis à chacun de vous. Peut-être l'avez-vous déjà reçu. Dans Jean chapitre 20, verset 22. Il n'y a pas de... Chapitre 20, oui, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». À ce moment-là, il ne leur a pas donné. Il leur a dit « Vous allez le recevoir. Mettez-vous dans les dispositions pour le recevoir. Je vous en prie, si vous m'aimez, si vous acceptez mon œuvre, acceptez que mon œuvre soit finie en vous. Recevez le Saint-Esprit. Mon œuvre, c'est de vous avoir pardonné par ma croix, par mon sacrifice à la croix, de vous avoir obtenu le pardon, la justice divine, et mon œuvre est que vous receviez le Saint-Esprit qui est en moi. Recevez mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit. » Et dans Actes chapitre 1, verset 8, Vincent tout à l'heure l'a dit, « Vous recevez le Saint-Esprit. » C'est clairement ce que Jésus avait dit à ses disciples. Regardons ce qu'a dit Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3, verset 16. Luc, chapitre 3, verset 7. Et on trouve cela, bien sûr, dans les autres évangiles. Parfois avec une variante, petite variante, mais c'est tout à fait le même message. Venu de Jean-Baptiste, et donc du Saint-Esprit, pour nous. Luc 3, verset 16. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et si je vais voir dans Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc et comme le feu? Donc, il s'agit bien sûr, il vous baptisera du Saint-Esprit et de sa parole purificatrice. L'un ne va pas sans l'autre, ni la parole, ni le Saint-Esprit. La vie de Jésus a été animée par l'Esprit-Saint, de façon puissante. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 4, qu'il a résisté à Satan à toutes ses propositions. Il a été victorieux par rapport à toutes les tentations que Satan lui a proposées. Dieu, le Saint-Esprit, a agi puissamment en Jésus. Parce que Jésus est sans péché, et Jésus, le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité, c'est la plus humble des personnes qui est venue sur terre. Depuis qu'il y a des êtres vivants sur terre, c'est la plus humble, c'est la plus crédible, c'est la plus vraie, c'est la plus intelligente et c'est la plus efficace. Je considère ainsi Jésus comme le premier à toute chose. Pour la vie de chacun de nous, et pour ma vie aujourd'hui. Et pourquoi est-il ainsi? Parce que la puissance, la réalité du Saint-Esprit était tout à fait, la personne du Saint-Esprit était accueillie en Jésus de manière parfaite. Il était le complice, l'ami, le frère du Saint-Esprit. Et la réussite, le plaisir, la joie, le contentement, la gloire qui est en Jésus, c'est d'être dans Saint-Esprit, de vivre dans Saint-Esprit, mais aussi, et c'est pour ça qu'il s'en est allé, pour que nous recevions, nous accueillions le Saint-Esprit, que nous le laissions vivre royalement en nous, le laissions diriger, consoler nos cœurs, éclairer nos âmes, transformer notre esprit. Et chose sublime, nous rendre libres et responsables. C'est tout le contraire d'un père ou d'une mère qui est captatif, frustrant, castreur, castratrice. Le Seigneur Jésus est quelqu'un qui invite à la responsabilité, à la liberté, dans l'amour et dans Saint-Esprit. Le ciel est heureux lorsque j'accepte la décision du Père de voir Jésus revenir tout près de lui. Le ciel est heureux, c'est que j'ai compris que j'allais devenir adulte. J'ai compris que j'allais prendre ma vie en main. Le ciel est heureux de reprendre Jésus et de l'installer à droite du Père sur le trône, selon le psaume 110. Mais le ciel est heureux parce que j'accepte que Jésus s'en aille avec joie, parce qu'il me donne son don suprême, son ami suprême. Le Saint-Esprit. Ainsi, si j'accepte le Saint-Esprit, j'accepte avec responsabilité la présence de Dieu en moi. J'accepte dans l'amour la présence plus qu'aimante de la personne divine. C'est une personne qui aime plus que moi, qui est plus sainte que moi et plus vraie, telle que Jésus. Et elle me permet de vivre selon la parole animée du Saint-Esprit également. L'ascension, c'est donc un courant, une consécration de Jésus vers le haut pour nous montrer sa grandeur, et c'est une certification de tout ce qu'il a fait sur terre, de sa bonne mission, remplie parfaitement. C'est une certification, c'est une approbation divine. Personne ne peut rentrer dans le ciel avant Jésus. Personne ne peut rentrer dans le ciel avec cette dignité qu'avait Jésus. Et donc, Jésus, puisqu'il nous a ouvert la porte, nous offre son meilleur ami, son frère, le Saint-Esprit, parce qu'il est compétent pour nous rendre dignes de notre Père des cieux et que nous puissions aimer Dieu et le connaître. Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Jean chapitre 7, versets 7 à 13. Oui, Jean chapitre 16, versets 7 à 13. Je vous ai dit ces choses parce que Jésus s'en va. C'est la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis, ça c'est sentimental cette tristesse, et c'est humain, c'est normal. Mais cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est un avantage que Jésus nous veut. C'est pas un détriment. C'est pas une absence néfaste. C'est pas un lâchage. Comprenez bien, ce n'est pas un lâchage de la part de Jésus. Alors, au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il n'y a que de la vérité. Il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc voilà l'œuvre de l'Esprit, c'est une pleine intelligence, une pleine connaissance de la pensée du Père et de Jésus, de la révélation. Et c'est effectivement lui le plus compétent. Jésus l'a certifié ainsi. Il nous a donné la personne la plus compétente après lui, ou en lui, ou devant lui. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'infériorité en Jésus ni dans le Saint-Esprit, envers l'un et l'autre. Donc, quand Jésus est mort, et qu'il est apparu au tombeau, dans Jean chapitre 20, il est apparu, bien sûr, à Marie de Magdala, et puis ensuite à d'autres disciples. Il est apparu dans Jean chapitre 20. Je vous invite à lire ces textes. Ils sont très importants. Nous voyons que Marie de Magdala et tous les disciples sont sans le Saint-Esprit. Et nous pouvons vivre, être comme ça. Être à l'égard de Jésus dans l'hésitation, dans la perturbation. Et nous voyons les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, versets 15 à 35. Ils ont le cœur brûlant, mais ils n'ont pas la vie divine en eux. Ils ont de l'amour pour Jésus. Ils ont de bons souvenirs, mais ils ont aussi de la détresse. Ça peut être notre cas. Au Cénacle, dans Luc 24, au verset 36, nous voyons que Thomas ne voulait voir absolument les trous dans les mains, dans les côtés et dans les pieds. Jésus lui a montré, mais il lui a dit « Heureux celui qui a cru sans avoir vu ». Nous pouvons être heureux sans avoir vu Jésus. Nous pouvons être heureux dans le Saint-Esprit et par sa parole, sous l'onction du Saint-Esprit. Je le crois fermement. Ce n'est pas de la bagatelle ce que Jésus nous a donné. Il faut le recevoir avec dignité et considération et action de grâce. À ce moment-là, nous apprenons à voir l'invisible. Nous apprenons à voir avec les yeux du cœur. Et c'est cela que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1. Les yeux du cœur, l'illumination du cœur et de l'esprit. Éphésiens chapitre 1. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, donc entre eux, et pour les autres églises aussi, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse, une intelligence humaine améliorée, un supplément d'âme, comme disait Bergson, dans un livre que j'ai aimé quand j'étais jeune, mais qui est nettement insuffisant pour moi maintenant. c'est un coup d'épée dans l'eau. Eh bien, l'esprit de sagesse, cette révélation dans sa connaissance, c'est pas un esprit humain. Regardez au verset 18. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est la certitude, l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Nous avons besoin d'être illuminés intérieurement, éclairés, pour connaître l'infinie grandeur de la puissance de Dieu aujourd'hui, dans nos vies, et de connaître la richesse de son héritage, de tout ce qu'il promet, de tout ce qu'il nous réserve, et déjà qu'il partage. Plus on est ouvert, plus on voit dans l'invisible, plus on reçoit par l'Esprit Saint. Et donc, il faut faire attention à ces versets, illuminez les yeux de votre cœur. Un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, chers amis. Au lac de Galilée, au chapitre 21, sept apôtres sont dans une barque pour pêcher, parce qu'il faut bien manger. Ils ne trouvent pas de poisson. Et un homme sur la rive a déjà du poisson cuit sur le feu pour eux. Il n'a pas de barque, il n'a pas de filet, il a déjà du poisson. Il a une autre nourriture pour eux. Et quand il leur dit « pêchez à tel endroit en eau profonde », ils remplissent la barque ou les deux barques de plein de poissons. Et puis ils se rendent compte que c'est Jésus. Mais ils n'osent pas croire, ils ont peur. Ils arrivent quand même tout près de Jésus et il faut bien admettre qu'ils ont été lamentables, ils avaient très peu de foi. Et nous voyons dans cela qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Ils font une expérience humaine de Jésus. Ce que je veux dire aujourd'hui, chers amis, puisque nous ne voyons pas Jésus, vous pouvez avoir une expérience humaine de Jésus, des soifs, des désirs, des approches de Jésus humaines. Mais, les amis, confiez-vous dans le don du Saint-Esprit que Jésus veut faire à ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Quand cet événement du lac de Galilée est terminé, soit tout de suite, soit quelques jours après, durant les 40 jours qui se sont écoulés, Jésus se rend au mont Tabor en Galilée, 500 frères le voient. Et ça, c'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. 500 frères. Ensuite, Jésus va rechercher ceux qui sont décédés et qui ont cru. Abraham, Esther, Rebecca, David, d'autres, qui ont cru dans la grâce, dans le sacrifice de Christ, qui ont cru qu'ils ne pouvaient pas être sauvés par leurs œuvres religieuses. Et cela, nous trouvons ce texte dans le credo du concile de Nicée, de Chalcédoine, qu'on a appris dans le temps, dans les églises, mais qu'on ne récite plus, malheureusement, parfois, mais qu'on trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Jésus, dans son amour, devait prendre tous ses croyants et les emmener au Père, avec le Saint-Esprit. Il n'est pas possible de venir auprès du Père sans le Saint-Esprit. D'autres apparitions eurent lieu pour instruire les apôtres durant les 40 jours. Et il est évident que c'était pour confirmer sa présence, sa puissance, et préparer la réception du Saint-Esprit. Prenons Actes, chapitre 3, verset 15. Actes 3, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Alors, il explique que c'est par le nom de Jésus que quelqu'un a été guéri, dans les versets suivants. Et témoigne de l'efficacité de la présence de Jésus et du nom de Jésus dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la Pentecôte. Il y a eu la réception du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'efficacité dans la foi et de puissance dans la foi sans l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous vous considérez bien cet événement de la guérison, dans le chapitre 3 des Actes, il faut déjà que le Saint-Esprit ait été donné à la Pentecôte. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les 40 jours n'ont pas été inutiles. On peut se poser la question, mais pendant 40 jours, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que ça a duré autant? On pourrait faire l'ascension 3 jours après, la résurrection, mais non. Parce que les humains sont lents à croire. Il faut les éduquer. Et regardez Luc 24, c'est évidemment ce que Jésus dit. Non pas en les méprisant, mais en les aimant. Et en sachant bien notre faiblesse, pas seulement celle des apôtres. Notre faiblesse, notre précarité. Et c'est parce que nous, il connaît notre précarité qu'il veut nous donner le Saint-Esprit. Et certains d'entre vous qui m'écoutez l'avaient reçu. Donc nous voyons en Luc 24, au verset 16, « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Nous voyons au verset 25, « Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alors au verset 31, « Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et plus tard, encore dans ce chapitre 24, il est auprès de ses disciples, il est en train de manger du poisson rôti et un rayon de miel. C'est au verset 42. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il mangea devant eux. Il est donc bien ressuscité. Est-ce que c'était au bord du lac? Est-ce que ça correspond à l'événement de Jean chapitre 21? Ou c'est une autre occasion que Dieu a provoquée, que Jésus a voulu? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, vous voyez, c'est une remise en œuvre complètement, une complète transformation. Tite 3.5. Donc c'est un disciple, bien sûr, de Paul, Tite. Et nous voyons au chapitre 3 de Tite, au verset 5, quelque chose de phénoménal. Verset 4, « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de sainteté, de justice, d'obéissance, que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, c'est-à-dire en certitude, conviction, héritiers de la vie éternelle. » Donc, vous voyez que le salut à la croix et œuvre complète en la réception du Saint-Esprit. Vous voyez bien ces versets, méditez-les. Il ne faut donc pas négliger la promesse du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a pris du temps, ces 40 jours, en le promettant. Et puis encore, il y a 10 jours et c'est la Pentecôte. Pentecosta, 50 jours. Nous sommes lents à croire. Plusieurs ont dit à Jésus, augmente ma foi, viens au secours de mon incrédulité. N'est-ce pas cela, aujourd'hui, durant le temps de l'ascension, que nous devons dire à Jésus? N'est-ce pas cela, un acte d'honnêteté spirituelle, pour que Jésus nous comble par l'œuvre du Saint-Esprit? Voilà, bon dimanche, bonne fête d'ascension. Que vous soyez bénis dans la parole, méditez. L'œuvre de Jésus pendant ces 40 jours n'a pas été stupide et vaine. C'était pas du néant. C'était, oh, je dois attendre 40 jours et puis je monte au ciel. J'ai mon train à prendre. Mais en attendant, bon, je vais m'asseoir, je vais manger une frite ou prendre avec du ketchup. Non, c'est pas ça que Jésus a fait. Il avait tellement d'amour qu'il a visité tous les disciples, qu'il les a instruits, qu'il les a préparés à recevoir l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, soyez préparés par Jésus en lisant sa parole, pour être soumis, dirigé, habité du Saint-Esprit, pour être le temple de la grâce divine, le temple du Saint-Esprit. Que Jésus vous bénisse. Amen. Amen.